yemek nasi, lok inedir. J'étudie une société en co-évolution et un humain fatal.
Les chercheurs en sciences sociales le savent très bien. Et pourtant, plus une société est-elle complexe et ses références diverses, plus elle séduit, interpelle et suscite la curiosité. Tel est le cas de la société marocaine. En revanche, étudier un groupe humain en voie de disparition, passez-moi la formule, est une entreprise qui relève de la gageure. Aussi triste que cela puisse paraître, c'est le cas des Juifs du Maroc, qu'on appelle à juste titre les derniers Juifs du royaume. Vivent encore au Maroc quelques 3000 Israélites, pour la plupart des vieux, concentrés dans les grandes villes, surtout à Gaza, à Fès, Agadir et Meknès. Les derniers Israélites essaient bon gré mal gré de garder une vie communautaire active, besoin qui relève parfois de l'exploit. Aussi, les motivations de cette étude sont un mélange de deux volontés. L'une tend à sonder des fluctuations des jugements de valeur émises par une majorité dont les composantes de sa mémoire relative aux juifs nationaux, minorités, sont dispersées et mal structurées. Et l'autre motivation a trait à la volonté d'élucider l'une des facettes des relations intercommunautaires au Maroc d'aujourd'hui et qui, autant de crises importées, ce qui de nos jours est si fréquent, prend des dimensions disproportionnées. Je veux parler ici des références religieuses qui alimentent consciemment et inconsciemment les jugements et les partis pris et affectent l'évolution de la conception que se font les individus et la collectivité des Juifs en général et des Juifs marocains en particulier. Il est bien question dans cette intervention de religion, mais pas de l'islam pur, mais d'un certain islam social qui bien sûr tire ses appuis du dogme, mais ne tient que chichement compte de ce même dogme lors de la fabrication des références religieuses et des liens matériels qui assurent sa survie et sa cohésion. Nos interviewés sont de deux ordres. Ceux qui ont connu à une certaine période de leur vie les Juifs, les ont côtoyés, ont traité avec eux, ont eu des relations soutenues avec eux, bref, ceux qui parlent en connaissance de cause. Et à bien exploiter les réponses de ces personnes, on arrive facilement à faire le portrait de la société marocaine au temps de la présence massive des Juifs. Puis, il y a ceux qui n'ont pas connu les Juifs en tant que groupe relativement homogène qui vivait dans la cité et participait à son économie et à sa vie sociale. Nous évoquerons plus tard les opinions de chaque catégorie et surtout des partis pris de ces derniers. De prime abord, notons que les discussions qui traitent des Juifs marocains provoquent d'une façon quasi systématiquement une tension palpable. Et de toute évidence, cette tension est trop exagérée pour prétendre à quelque légitimité ou même à une simple reconnaissance intellectuelle. Certes, la rancœur est omniprésente et même dans les conversations de musulmans, entre eux surtout depuis l'avènement de Hamas à la tête de l'exécutif palestinien. Néanmoins, il suffit que l'un des interlocuteurs soit associé à l'Occident de par sa nationalité. Et voilà que la communication tourne vite à l'affrontement. Madame Trevisan et moi-même avions si souvent fait les frais de cette donne. Ainsi, notre souci majeur était de tout temps d'évoquer le sujet en toute neutralité et essayer par divers moyens de gagner la confiance de notre interlocuteur et surtout le convaincre que notre démarche n'a qu'un seul but et c'est justement celui que nous déclarons dès le départ. Il fallait préciser, les yeux dans les yeux, que la Gaouria est italienne, chrétienne, que moi je suis musulmane de père en fille et que notre travail s'inscrit dans un cadre scientifique pur. En effet, le conflit israélo-arabe a littéralement faussé la conception que les Marocains du judaïsme, de la présence juive au Maroc et de la culture commune judéo-marocaine, judaïsme, sionisme, impérialisme, globalisation sont des termes qui sont usités de façon anarchique au point de croire qu'ils sont synonymes. On passe souvent de religieux au profane, de l'histoire à l'actualité brûlante, du culturel au ridicule. Bref, on a du mal à cerner la conversation qui souvent souffle et s'égare dans les futilités idéologiques. Néanmoins, ces éléments et bien d'autres expliquent en partie les rancœurs, mais ne suffisent à concevoir ce qui s'apparente à un mépris viscéral. Force alors est de constater que l'excitation est la manifestation spontanée d'un cumul de partis pris et de jugements de valeurs aux références religieuses. L'islam, ou plutôt les mésaventures du prophète Mohammed, constitue un référent omniprésent et pour ainsi dire une valeur incontournable. Avant de relater les soubassements purement religieux de la conception qui se font nos interviewés sur, de leur relation avec les juifs, il est utile d'évoquer trois éléments d'une importance primordiale qui tirent leurs racines d'un ensemble de références que j'appelle la religion civique marocaine, religion constituée en gros d'influents religieux, historiques, ethnologiques. Le premier est une affirmation collective que la minorité juive, ce n'est pas une invention importée ou rapistolée par une force maléfique étrangère, c'est une réalité bien réelle. Les juifs sont considérés comme une minorité marocaine bien ancrée dans le temps et le sol, pour reprendre la formule populaire. De tout temps, la majorité s'est vue majorité et a agi comme telle dans sa relation avec la minorité. Et de l'autre côté, la minorité a œuvré avec acharnement pour renforcer le statut de protéger et à préserver ses acquis. Chaque groupe a traité l'autre selon des codes et des règles qui imposaient un minimum d'égards, mais garantissaient un maximum de conditions indispensables à la stabilité collective. Le deuxième élément est la manifestation de l'un des mythes fondateurs de la personnalité marocaine, celui que le professeur Mohamed Hatimi appelle le mythe du juif heureux dans un royaume heureux. Les Marocains croient dur comme fer qu'ils sont tolérants et que la société marocaine est foncièrement tolérante. Mieux, ils n'hésitent pas à avancer l'idée selon laquelle le Maroc pourrait servir de modèle idéal de tolérance. Par tolérance, ils veulent dire que leurs ancêtres ont toujours protégé les Juifs, que les sultans marocains se sont toujours montrés veillants à l'égard des sujets d'immis, que les communautés israélites ont pu évoluer et prospérer dans des cadres favorables. Bien évidemment, les Marocains n'accordent que peu d'importance aux lois et règles théocratiques et sociales de mise pendant des siècles et qui condamnaient les Juifs à vivre dans un statut humain et juridique inférieur. Un double sous-entendu se profile. Au Maroc, les Juifs ont certes enduré, mais ils n'étaient pas les seuls. Des musulmans, eux aussi, ont souffert autant, sinon plus. L'autre volet est plus affirmatif. Les persécutions subies par les Juifs sous la chrétienté sont plus cuisantes que celles subies en ce bout de terre d'islam. Et ceci est très important, puisqu'il pourrait ouvrir la voie à une amitié judéo-arabe que le Maroc pourrait mener et faire fructifier. Le troisième élément a trait à la cohabitation entre les deux communautés. Le Mellah est présenté comme un quartier qui fait partie intégrale de la ville. Il ne s'agit pas d'un espace en marge, fermé et encerclé. Il est plutôt conçu comme un prolongement de la cité musulmane, un lieu d'échange et de fraternité. Des centaines de petites histoires sont souvent racontées pour appuyer cette donne. On reconnaît à la société juive du Mellah son essence traditionnelle, contrairement à celle qui a franchi les murs de l'ancienne Médina pour habiter la ville nouvelle à côté des Français. La tradition juive, les musulmans, la déterminent par divers indices. Observation du Shabbat, fidélité à la synagogue, respect des anciens, amitié avec les familles musulmanes, etc. En somme, il s'agit de traditions religieuses et sociales. À vrai dire, il existait en fait deux sociétés, la juive et la musulmane. Elles vivaient dans la différence, jalouses de leur identité. intransigeante sur la foi et les croyances. Cependant, on perçoit à la lumière des récits des espaces de convergence qui les unissaient et favorisaient tant bien que mal la cohabitation et la coexistence. Le langage, l'analogie des structures mentales, les récompenses et les sanctions, l'imaginaire individuel et collectif, la culture populaire, la musique. Certes, on était loin de la symbiose, mais au moins, au niveau de la vie quotidienne et des préoccupations économiques, les mêmes règles régissaient les deux communautés, plus chez les juifs que chez les musulmans. On pouvait parler en société bipolaire d'une personnalité judéo-marocaine manifeste dans les lieux à forte densité, autant dans les zones rurales. Et bien sûr, dans les mellahs, la volonté de vivre à 100% juif butait contre une armature d'usage de bonne conduite semblable à celle qui prévalait dans la Médina musulmane. Ces trois éléments explicités évoquant les références religieuses qui se dégagent des déclarations des gens interviewés, un premier constat s'impose, ceux qui ont côtoyé les juifs et ont traité avec eux sont moins enclins à évoquer explicitement ou implicitement des jugements à caractère religieux. On est même tenté de croire qu'il y a une certaine tendance à juger les juifs sur les faits. Et ces faits concordent à attester que les juifs étaient des gens honnêtes, serviables, aimables. En revanche, la majorité de ceux qui n'ont jamais rencontré un juif marocain, qu'il soit on a interviewé aussi des étudiants à la faculté, ou pas, puisent leur jugement dans l'arsenal judéophobe populaire. C'est surtout cette dernière catégorie qui est plus sensible au discours qui puise sa charge émotionnelle dans le référentiel religieux. Le Marocain qui appartient à cette catégorie n'a pas spécialement de l'animosité à l'encontre du juif, qu'il soit son voisin ou un lointain touriste étranger. Il dira du bien de lui sans pour autant s'empêcher de tisser des petites histoires qui dénigrent le juif et le ridiculisent. Ainsi, aussi paradoxal que cela puisse paraître au moins au premier abord, notre Marocain ne bronchera nullement quand un juif est sujet de diatribe. Ainsi, le jour de la prière, il ne trouve pas du tout inconvenant et maladroit que l'imam finisse sa khutba en souhaitant que tout le malheur du monde s'abatte sur les juifs et ne souffle mot sur les chrétiens, eux aussi d'ailleurs gens de kofra. Pour simple précision, il paraît que le ministère des affaires islamiques a sommé les imams à ne plus prononcer la formule Allahumma al yahoud. Et de toute évidence, ils se sont appliqués. Notre Marocain n'est pas non plus mal à l'aise ou contrarié quand des pseudo-ulama excellents en matière de démagogie religieuse, rendant les juifs responsables des malheurs de l'humanité, ce que dans son inconscient, les juifs sont les ennemis du prophète, donc d'Allah. Des pseudo-ulama justement, parlons-en, nul doute, la surenchère est la seule science qui maîtrise les non ou mal initiés à la science religieuse, science qui a pour priorité éternelle guider les croyants à éviter les causes de la fitna et renforcer les lieux de l'ijma. Or, puisque le champ politique marocain est magistralement bien balisé et ses contours affinés par le pouvoir, les ténors des politiques d'Allah ont tendance à puiser leur vigueur dans des thèmes classiques qui a priori ne mettent pas en danger les fondements de la paix sociale ni affectent les artifices de la légitimité politique et religieuse de l'institution monarchique. Le judaïsme international fournit à bien des égards un excellent levier de haine. Il existe bien de nombreux passages dans le Coran, la Sira et les Hadiths qui usent d'un langage franchement hostile aux Juifs. Ces passages traitent des mésaventures du prophète avec les juifs de Médine, les juifs étant des infidèles, rusés et déterminés à faire obstacle à l'expansion de la nouvelle foi, et qui, en dépit de traités d'Aman octroyés généreusement par l'État musulman, n'ont pas hésité à trahir le dernier des messagers. Néanmoins, soutenu par Allah et les anges et confiant dans la justice de son message, Mohammed a su triompher des Juifs et est sorti victorieux de toutes ses démêlées avec eux. Le Coran et la Sunna insistent non pas tant sur l'opposition des Juifs de Médine au Mohammed que sur leur défaite et humiliation. Les Juifs symbolisent ainsi la trahison et la culpabilité. Ce péché original des Juifs constitue une matière fertile à la propagation. Il est vrai que le thème s'apprête merveilleusement à la transposition, beaucoup plus en tout cas que lors du clash avec la chrétienté. J'évoque ici parmi d'autres l'affaire des caricatures danoises. On assiste ipso facto à un retour de l'histoire, un peu comme si le décor de Médine n'a pas changé et que les acteurs sont restés à l'identique aussi bien en motivation qu'en équilibre de force. Pendant les périodes de grande tension au Moyen-Orient, que le discours judéophobe s'intensifie. Les Israéliens sont de toute évidence des Juifs. Les Palestiniens sont des frères musulmans. Et puisque tous les Juifs du monde, y compris ceux du Maroc, aident les Israéliens, il est tout à fait normal que les Marocains, parce que musulmans, ont le devoir religieux de soutenir les musulmans de Palestine, qui se donnent en martyr pour défendre la terre de l'islam. Et c'est surtout dans une certaine presse écrite que l'amalgame prend des dimensions terrifiantes. Les titres, en gros, sont souvent d'une violence inouïe. Puis, dans les articles, il y a reproduction du péché original dans des versions nouvelles qui insistent sur la culpabilité et surtout sur la promesse de victoire finale qu'Allah a fait à ses vrais fidèles, les musulmans. Le conflit contre les Juifs est dur et lent, mais il finira par la victoire de la nation de Mohammed. Puis il est devenu presque systématique de crier lors des manifestations de soutien aux Palestiniens et aux Libanais de scander « Khaybar Khaybar ya Yahoud, Jish Mohammed Sayyaoud » et autres slogans du genre, et par extension évoquer les Juifs du Maroc selon la même logique de revanche. La presse écrite et la télévision est dans ce discours avec d'une façon sensible la vision que le Marocain a de l'histoire de la présence juive dans son pays. Quelques personnages médiatisés, et non pas des moindres, sont devenus des icônes en la matière, le plus illustré, le Khwarizmi. Résultat, évoquant que le souvenir de la présence massive juive au Maroc, nos interviewés font preuve d'un déterminisme fructueux. Certes, il y a reconnaissance de la longue présence et d'une relative contribution à l'œuvre nationale, mais il y a insistance maladive sur les aspects les plus négatifs. Ainsi, les Juifs se sont rués vers les puissances étrangères et sont devenus des protégés, al-himayat, la protection étant un phénomène purement juif, ce qui est faux historiquement. Les Juifs ont été aussi, sans exception, des agents du colonialisme français et ont conspiré contre la légitimité de Mohammed V, faisant ainsi preuve de traîtrise extrême, puisque ce dernier était leur sauveur et protecteur contre les nazis, et la collaboration française. Enfin, et comble de la méconnaissance, ils se sont enfuis du pays comme des lâches pour renforcer les rangs d'une entité sioniste, autrement dit raciste, colonialiste et à la solde de l'impérialisme. De toute évidence, de tels propos sont assimilables à l'intolérance, phénomène qui puise sa référence dans l'absolutisme de l'ego et la diabolisation de l'autre. Il est curieux d'entendre ceux qui tiennent un discours franchement anti-juif soutenir avec fermeté l'idée de la tolérance en islam et bondir le slogan à toute épreuve. Et là, comme par enchantement, on puise dans la sirah des petites histoires qui démontrent que les relations du prophète et ses compagnons avec les juifs ne manquaient pas de chaleur et de sympathie. Je voudrais insister sur les réactions des étudiants interviewé, surtout ceux de Meknès, de la faculté des lettres de Meknès, elles constituent à bien des égards une fraction spécifique, puisque la société les considère comme des initiés et qu'eux-mêmes agissent comme des personnes qui pensent la chose publique. Leurs réponses, qu'elles soient réfléchies ou spontanées, témoignent des limites des prétentions sociales et de l'étendue des partis pris. Ils avancent l'idée de la tolérance de la société marocaine et de toute évidence, ils sont sincères dans cette affirmation, mais en même temps, par l'usage de quelques termes et de moult images sarcastiques, ils attestent des limites et de la tolérance version marocaine et aussi de leur ignorance de ce qu'était la présence juive au Maroc et la contribution des juifs à la culture marocaine. Quelques indices sont révélateurs. En grande partie, les étudiants interviewés n'ont jamais rencontré un juif marocain. Le peu qu'ils connaissent sur la judéité marocaine a été rapporté par des proches ou à travers des récits. La majorité méconnaît les chiffres relatifs au nombre des juifs du Maroc, que ce soit avant ou après l'indépendance. Ils se contentent, après un effort palpable, de citer quelques noms, non sans demander de l'aide. Le personnage le plus en vue est le conseiller du roi, André Azoulay. Ensuite viennent Abraham Serfati et Edmond Lmelech. La majorité n'arrive pas à définir ce qui est le judaïsme, les interdits juifs, les fêtes juives, les saints juifs, etc. Plus révélateur, ils n'arrivent même pas à citer des proverbes populaires qui ont trait aux juifs et qui de toute évidence concentrent la conception que se fait une société d'une de ses composantes humaines. La grande majorité ne peut concevoir que les Israéliens d'origine marocaine sont fiers de leur origine et œuvrent pour la conservation de la mémoire juive marocaine, ainsi que pour le maintien de liens moraux et spirituels avec l'État marocain et ses symboles, surtout avec le trône alaouite. Quelques conclusions peuvent être mises en exergue. Primo, cette ignorance n'est pas propre au sujet relatif aux juifs marocains. Elle est presque générale. Les étudiants ne portent que peu d'intérêt aux influences constituant la personnalité marocaine. Et pour cause, ils ne pensent pas que cette personnalité est en crise ou en déperdition. En revanche, il insiste sur les éléments qui renforcent l'originalité et en totalité, ces éléments ont une connotation religieuse. C'est dire qu'il existe une dynamique d'évacuation de l'héritage juif et cette dynamique paraît irréversible. Secondo, les étudiants, plus que d'autres fractions de la société, sont hypersensibles à l'actualité et au choc des images. Les meetings étudiantins ainsi que les surenchères entre fractions rivales alimentent les rancœurs contre l'autre israélien. L'Israélien prend le dessous sur le juif et le complot sioniste constitue à bien des égards un levier d'union et de mobilisation. Tertio, les étudiants islamistes ont de l'avance en matière de littérature anti-juif, pas seulement contre les Israéliens et les Juifs qui gouvernent le monde, mais aussi contre les Juifs marocains eux-mêmes. Ainsi, l'économie marche mal parce que le conseiller du roi est juif. Abraham est juif. Azoulay. Abraham Serfati est un communiste, donc un athée, statut pire d'être juif. Plus grave, les quelques juifs qui habitent encore au Maroc sont des sionistes dans l'âme, donc des agents du Mossad. En guise de conclusion, je voudrais insister sur un point qui me semble important à plusieurs titres. Il s'agit de la double conduite face au sujet qui traite ou évoque le judaïsme et les juifs marocains. D'un côté, il y a consensus concernant la faculté de tolérance chez le marocain. De l'autre, une certaine tendance à se laisser entraîner dans les méandres de la judéophobie. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette judéophobie drôle parfois l'antisémitisme, mais ne franchit pas le seuil du verbal À noter que les attentats du 16 mai ont relativement bouleversé la donne puisque deux cibles étaient juives, le cimetière juif de Gaza et le club de la communauté. À Meknès, l'assassinat crapuleux d'un juif résident au Mellah avait soulevé l'indignation générale et les témoins concordent à considérer cet acte comme isolé et regrettable. Et merci.